À la rencontre d'un homme dont la passion pour la lavande dépasse le simple amour des paysages fleuris, Emmanuel Dalla Favera, créateur d'un lieu unique en son genre, Absolue Lavande. Emmanuel est bien plus qu'un amateur de lavande, c'est un collectionneur passionné, un passeur de mémoire. Effectivement, depuis des années, il rassemble tout ce qui touche à la lavande. Objets anciens, flacons, affiches publicitaires, livres, outils de distillation, chaque pièce raconte une époque, un savoir-faire, une mémoire. Emmanuel Dalla Favera, au micro de Chris Alessandri.
Ben oui, tout à fait. Oui, j'ai eu cette opportunité-là de créer ce petit local à Sisteron. Enfin, petit, ça fait 120 mètres carrés quand même. Mais bon, pour moi, c'est petit parce qu'il me faudrait beaucoup, beaucoup plus de place. Là, je termine la 8e saison. On est en pourparler pour que je me sépare de ce boutique parce que ben, la retraite arrive, quoi. Voilà, et puis j'ai un peu envie de faire autre chose. Et puis j'ai un peu envie aussi d'essayer de mettre en valeur le matériel qui est dans la boutique, plus le matériel qui est toujours chez moi, que personne malheureusement ne voit. Donc peut-être essayer d'avoir justement du temps à moi pour me consacrer à ça. Pourquoi pas proposer une exposition sur DIN, une exposition qui soit par exemple aux archives départementales. Je sais que on avait discuté une fois avec M. Labadi, ben, il était partant, surtout que les archives ont de quoi en reprographie, en espace, ils ont de quoi, on aurait de quoi faire une très 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 belle exposition, même s'il n'y a pas tout le matériel, c'est pas grave, mais quelque chose de très parlant. Et surtout à Digne, quoi, la capitale de lavande. Bon, j'aimerais le faire sur Sisteron, on l'a fait sur Sisteron il y a 2 ans, on a fait une expo, c'était au musée Terre-Étang aussi, qui était très sympa. Bon, on n'a pas pu étaler, c'était que pour l'été, on n'a pas pu étaler beaucoup de matériel, mais on en a mis pas mal. Voilà, il manque de la place, quoi. Il manque un peu de place et du temps, et du temps, et du temps, et du temps. Bon, je crois que je vais profiter de cette retraite qui arrive, hein, et j'ai 62 ans passés, pour prendre du temps justement pour refaire un tour dans les communes environnantes du 04, on va dire. On va partir sur le département quand même, mais peut-être, enfin, voilà, bon, peut-être on va rester dans le périmètre, mais bon, bref. Essayer de voir des maires s'ils avaient un local disponible, s'ils avaient quelque chose en vue qui puisse accueillir une exposition et la laisser à demeure dedans et la faire vivre, accueillir des gens dedans. Voilà, disons que ça serait le but de cette collection qui a démarré en 99 quand même. Bon, ça fait quand même 25 ans. Bon. Voilà, donc je ne perds pas espoir quand je vois, bon, c'est pas dans les 04, mais quand je vois au Loul qu'ils ont ouvert un musée de la clé, de la serrure, parce qu'ils ont mis en valeur, ils mettent en valeur la collection qu'un gars il a regroupée en 50 ans, et ça part de l'époque romaine jusqu'à maintenant, donc c'est colossal comme truc, donc je me dis... Qu'est-ce que 25 ans à côté de 50 ans? Mais bon, il a dû commencer plus tôt que moi, quoi. Et moi, si je me bats 25 ans, je pense que je serai peut-être plus de ce monde-là depuis un moment déjà.
C'est tout un univers que vous allez donc essayer peut-être de transporter, d'amener à la porte de différentes communes. De quelle façon est-ce que vous structurez ça dans votre imagination que vous avez projeté? Forcément, c'est un projet que vous avez dans la tête.
Oui, alors il y a plusieurs façons de voir ça. Soit on a les moyens pécuniaires et on peut y aller partir seul. Ça, c'est la solution qui serait l'idéal. Mais il me manque quelques euros et il me manque quand même pas mal d'euros, quoi. Je pense que l'idéal, ce serait de partir ou en associatif, créer une association 1901 avec des bénévoles, avec un président, un trésorier. L'association porterait le projet, comme il y a d'autres associations qui l'ont fait. Et là, c'est différent parce qu'on n'est plus une seule personne, on ne porte plus la responsabilité sur une tête.
Ça serait plus un commerce, donc.
Ça ne serait pas un commerce, non, ça ne serait plus un commerce, ça serait un lieu de visite. Bon, avec toujours 4 choses à vendre, parce que les gens demandent à ce qu'ils aient pu se acheter un souvenir de l'endroit où ils sont venus. C'est immanquable, il le faut, mais géré par une association, et que la vente de ces produits bénéficierait à l'association. Et l'association ferait vivre, donc ça permettrait de faire des passerelles avec des écoles, des passerelles avec des villes, comme la foire de la lavande. Ça pourrait être super sympa. J'ai quelques personnes en tête, que je ne citerai pas, parce qu'elles ne m'ont pas donné leur accord, mais j'ai quelques personnes en tête qui pourraient très bien rentrer dans cet assaut. Et des gens qui sont irréprochables côté honnêteté, côté passion, quoi. Et voilà, on peut leur donner les clés du garage, ils ne partiront pas le matériel, quoi. Donc, je connais quelques personnes comme ça, il ne suffit pas d'être nombreux, il suffit d'être 3, 4, ça suffit, quoi. Et après, il y a tout un tas de membres qui seraient autour. Mais on ferait poids sur une mairie, parce qu'une mairie, un projet, vous allez les voir, vous portez un projet sur une seule tête. Moi, j'ai pas de famille derrière, j'ai pas mes gamins qui me suivent. Si jamais je casse ma pipe au milieu du projet, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Une asso, c'est différent. Une asso, elle est portée sur plusieurs têtes. Le président, il a un problème, ou le trésorier, il a un problème. Ben, on est interchangeable. Alors que quand on est seul, on n'est pas interchangeable. Ou très très difficilement, il va falloir qu'il y ait une personne qui soit au courant de tout, mais vu la somme de choses à savoir, on ne peut pas être changé dans l'instant T comme ça. C'est comme si je disais, demain je me fais un AVC, la boutique, quelqu'un la reprend comme ça, c'est pas possible. Il y a trop de choses qui sont, et encore que là il y a un comptable qui pourrait aider. Bon voilà, donc moi je vois ça comme ça quoi. Et l'avantage de l'association, c'est qu'on peut demander des locaux à une mairie, se faire passer des locaux, prêter des locaux, on peut se faire subventionner. Alors, on est à but non lucratif aussi, donc on n'a pas besoin de faire un chiffre d'affaires de ci, de là. Voilà, donc on serait beaucoup plus libre pour démarcher les offices de tourisme, pour démarcher des voyagistes, pour démarcher les mairies. Et ça serait pas mal. Je pense que c'est la clé. Malheureusement, c'est la clé. Et après, si j'y arrive pas, si je me donne, allez, je me donne 5-6 ans, je me donne 5-6 ans, si j'arrive pas, je me sépare du matériel, tant pis, je vendrai un musée Clermain. Je sais qu'il y a des gens qui ont largement l'argent pour le faire, qui ont l'endroit pour le faire, mais qui n'ont pas le matériel. Et moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai le matériel, mais j'ai ni l'endroit et ni l'argent pour le faire. Donc voilà. Ou alors solliciter des musées comme le musée de la parfumerie à Grasse, parce que j'ai des collections qui, peut-être pas toute la collection, mais certains trucs de la collection, les livres par exemple, les flacons anciens, tous les bidons en cuivre, les estagnes en cuivre, ils n'en ont quasiment pas. Tous les essentiels, ils n'en ont pas. Dans le musée international de la parfumerie, il y a un énorme hall quand on rentre en haut, où j'y verrais très bien une muséo sur l'histoire de la lavande, parce qu'à Grasse, la lavande, c'était très important. Ce n'est pas que les produits finis, c'est aussi les matières premières. Et les matières premières comme la lavande, c'est emblématique de l'arrière-pays de Grasse. Donc, ils pourraient quasiment créer quelque chose, vu qu'en bas, ils n'ont plus un gramme de matériel. C'est tout parti à la ferraille depuis longtemps. Il n'y a plus rien. Même quand on va voir Molinard ou Gallimard, Molinard-Fagonard, quand on va le voir, ils ont créé des musées. Mais c'est des boutiques, quoi. Il n'y a pas de matériel. Le matériel, il y a longtemps qu'il est parti, qu'il a été ferraillé, malheureusement.
Manu, au fil du temps, avec votre passion, avec vos connaissances, avec votre ardeur, vous avez accumulé donc ces objets de l'histoire qui viennent de la vie de notre territoire. Ces objets, vous les aimez. Si vous deviez en sélectionner quelques-uns, quels seraient-ils? Ceux qui vous touchent particulièrement?
Ah là là, là c'est très très difficile. Alors, il y a deux sortes de matériel. Je dirais, il y a le matériel décoratif et le matériel qui a réellement servi. Donc par exemple, tous les tout petits alambics qui sont en cuivre, bon ça c'est de la déco, on ne peut pas rattacher ça à la lavande. C'est de la déco et ça fait discuter et c'est très bien. Et ça permet d'expliquer à des gens différents modes de distillation. Mais par contre, les gros alambics, c'est différent parce qu'ils ont tous eu de la lavande qui leur est passée dessus. Le faible, c'est vrai que j'ai un gros 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 faible, c'est sur celui qui sert sur la foire de la lavande, c'est le premier que j'ai acheté. C'est le propriétaire, je l'ai acheté à Majastre, cet alambic-là. Et ça faisait depuis 1960 qu'il ne servait plus, il était toujours à côté de la fontaine, pas mal rouillé, c'est le premier que j'ai restauré. Et le propriétaire m'en a réellement fait cadeau, quoi. Il m'a fait payer ça, le prix qu'il avait payé en 1926, à savoir 200 francs. Ben voilà, en 99, on n'était pas encore à l'euro, c'est 200 francs, donc voilà, c'était symbolique. Voilà. Il me dit, je te fais payer ce que je l'ai payé en 1926. Bon, voilà. Et du coup, je l'ai restauré, je lui ai fait voir, il était content de revenir à mes ailes, le voir fonctionner. Et après, ben, c'est celui qui tourne toutes les années sur la foire de lavande, et qui est encore cette année sur la foire de lavande. Donc il est vraiment ancré là, et on ne veut pas dire qu'il vient du 06, qu'il vient de la Drôme, qu'il vient du 84, parce que les miens, ils viennent un peu de partout. Mais celui-là, il est vraiment de Majastre, voilà, il est redescendu de la montagne, et il n'est pas parti dans un salon, il n'est pas parti dans nos boutiques, il sert. Il est ou dans mon garage, ou sur la foire de lavande, et tout le monde peut le voir. Pour parler projet, pour parler de pistes qui sont futures, bien entendu. J'adhère aussi à, parce que pour la boutique, mais en tant que collectionneur surtout, à la Maison du patrimoine culturel, la Vendicole de Provence. C'est une collectif qui a été créé en vue du classement, on va dire, du monde de la Vendicole, de la culture, mais ce qui tourne autour aussi au patrimoine du monde de l'UNESCO. C'est porté par l'USS à Fort Calquier. c'est Xavier Lemonde, son directeur, qui s'en occupe. On est toute une bande. Bon, moi, je suis le seul collectionneur, mais il y a le musée de la lavande du Coustelet aussi. Ben, tout ce qui est Gallimard, Fragonard, on en a parlé tout à l'heure, ils y sont aussi. Il y a le musée international de la parfumerie de Grasse aussi. Farina, les parfumeurs qui sont aux États-Unis. Farina, le parfumeur, c'est celui qui a créé l'eau de Cologne à Paris pour la reine de Hongrie. Farina, je ne sais pas si tu as vu le film Le Parfum, où tu as Grenouille et compagnie. C'est chez lui. Et cette maison, elle existe toujours. Elle était en 1700 et quelques. Et ils sont aux États-Unis maintenant. Donc, ils en font partie. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Kenzo, il y a Caron, il y a toutes les grandes marques de parfums qui en font partie de ce collectif. Il y a l'Occitane, bien entendu. Bon, j'en oublie énormément, hein, parce que je n'ai pas la liste sous les yeux, donc, et j'en fais partie aussi. Et du fait, ça aussi, ça serait une piste, d'ailleurs, c'est pour ça que je les intéresse aussi, c'est justement parce qu'on pourrait faire un point de ralliement, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais qui, d'un côté, il y a le côté moderne de la lavande, avec les problèmes, avec les soucis, avec la culture, avec toute la technologie moderne qu'il y a maintenant là-dessus, mais avec un ancrage ancien. Avec un ancrage qui remonte à extrêmement longtemps, quoi. Et donc, par le biais de ma collection, et sûrement peut-être des pièces d'autres aussi, hein, parce que je ne suis pas le seul à avoir des pièces. Certes, je suis le seul à en avoir autant, mais il y en a d'autres qui en ont. De faire quelque chose qui pourrait faire une muséo, mais en même temps aussi, pas le centre névralgique, je ne vais pas aller jusque-là, mais de faire le fief de cette association-là, qui est basée sur Fort Calquier. Alors pour l'instant, je ne sais pas si ça va rester à l'USS, dans les locaux de l'USS, ou alors si ça serait porté ailleurs, je ne sais pas du tout. Ça, il y a tout le monde qui est dedans. Pour l'instant, c'est la reconnaissance et la classification à l'UNESCO. Après, on verra un peu ce qui se passe. Voilà. Mais donc, ça fait une piste d'opportunité pour faire aboutir quelque chose qui pourrait être très sympa. Parce que là, il pourrait y avoir des financements derrière. Bon, c'est associatif, bien sûr. Des financements, il pourrait y avoir... si le collectif pourrait intéresser les élus, parce que des élus, que ce soit Fort Calquier, que ce soit ailleurs, ou je ne sais pas, pourraient être intéressés à recevoir ce siège social, entre guillemets, là, pour tout ce qui gravite autour de ça, quoi. Parce que ça dynamiserait un peu aussi, si on arrivait à ancrer ça là, sur le département, que ce soit Digne, que ce soit Manosque, que ce soit Fort Calquier ou Sisteron, ça donnerait un bon coup de boost à la destination touristique, quoi, au département, parce qu'on arriverait à faire quelque chose qui a du sens, quoi, qui a du sens et qui n'intéresserait pas que des promeneurs par une après-midi d'orage l'été, quoi. Parce que, avec les bouquins que j'ai, par exemple, il y a de quoi... Des étudiants ont de quoi s'y repiocher dedans, pour voir un peu ce qui se faisait à l'époque, pour s'ils font une thèse, pour aller repiocher des infos des années 30, des années 20, des années 10, des années 1900 aussi, de voir ce qui se faisait. Il y aurait un peu plus de matière qu'une simple visite, quoi. Voilà.
Manu, vous avez un projet puissant dans la tête, vous êtes au micro de Fréquence Mistral. Si vous aviez, en synthétisant, un appel à lancer à d'éventuels partenaires, personnes qui pourraient être intéressées par ce projet, qui pourraient accrocher et vous suivre.
Ah, écoute, je sais pas du tout. Je vais avoir les chevilles qui gonflent. Je dis, tiens, il faudrait qu'on monte un dossier et qu'on le présente à la Fondation Pinault, par exemple. Bon, Fondation Pinault, pourquoi pas, hein, je dirais, ils font des aides. Bon, non, mais plus simplement, il faudrait que les entreprises qui sont dans la parfumerie, rien que dans le 04 déjà, en partant par l'Occitane, en passant par les savonneries des petites séries, en passant par tous les acteurs qui sont dans les senteurs, dans le 04, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de pas mal. On pourrait faire quelque chose de bien. Parce qu'on a déjà de quoi dans le département, quoi. Après, si on pouvait être parrainé par un grand couturier ou une grande maison de parfum, pourquoi pas ? Pourquoi pas Caron ? Puisque pour un homme de Caron, qui est toujours à la lavande et tout, Kenzo aussi, qui a de la lavande. Tous les parfums masculins ont de la lavande de toute façon. Ce n'est pas écrit parce que c'est ringard. Mais ils en ont tous dedans, quoi. Mais après, c'est vrai qu'il faudrait monter un dossier assez, assez complexe, quoi. Et là, moi, ce dossier-là, moi, je ne peux pas le travailler seul. Je n'ai pas ni les compétences pour monter un dossier comme ça. Une fois, j'avais demandé à l'ancienne directrice du prieuré de Salagon. J'ai dit, madame, qui a écrit un bouquin sur la lavande, d'ailleurs, qui est très sympa. Et j'ai dit, il faudrait que vous m'aidiez à écrire un bouquin sur la lavande. C'était dans les années, on va dire, 2010 à peu près, il y a une quinzaine d'années. Et elle m'avait dit, oh là là, mais des bouquins sur la lavande, il y en a à foison, il y en a beaucoup, quoi. Et j'ai dit, c'est vrai qu'il y en a pas mal, mais il y en a beaucoup qui disent tous la même chose et ils ne traitent pas de ce que j'ai la matière pour le faire traiter. Et elle m'a dit, vous savez ce qui serait sympa de faire? Elle me dit, c'est un bouquin sur le matériel de la lavande. Et elle me dit, ça n'existe pas. Et elle me dit, ça serait un gros travail, mais ça serait très, 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 très intéressant de justement d'avoir la possibilité de parler des sources d'approvisionnement, du transport, pourquoi tel type on le retrouve dans tel endroit, tel autre par là. Ben, parce qu'il y avait les voies ferrées, que ça ne venait pas par des voitures. En 1900, 1920, ça venait par le train. Donc, enfin, voilà, il y a des cheminements de matériel par le train d'Épigne, par la ligne de PLM à l'époque, Grenoble-Digne, on peut dire. Après, il y en avait une autre qui n'existe plus, qui était Avignon-Fort-Calquier. Et tout ça, c'était des artères qui faisaient respirer l'industrie de la lavande, comme toutes les autres industries d'ailleurs. Mais le matériel arrivait par là, les produits finis repartaient par là. Le train d'Épigne, il n'a pas transporté que des voyageurs. Il y avait beaucoup de trains de marchandises à l'époque, donc il y avait beaucoup... Tout ce qui était distillé par la traverse, ça partait par le train d'Épigne et ça allait jusqu'à Grasse, parce qu'à l'époque, le train d'Épigne passait à Grasse. C'était le Central Var qui faisait Nice-Mérargues, qui malheureusement, ça a été bombardé pendant la guerre, donc il n'a plus été remis en route. On pouvait faire descendre les huiles essentielles, ou les essences, à l'époque on disait plutôt des essences que des huiles essentielles. On pouvait les faire descendre de Barème, et tout le long d'ailleurs, Barème, Saint-André, Hanot et compagnie, ça descendait jusqu'à Plan-du-Var, ça bifurquait, ça allait sur Grasse, et les matières premières arrivaient sur Grasse. Voilà, donc le train et certaines voies ont joué un rôle très important. Et pourquoi on retrouve tel type de matériel là, tel type de matériel là. Voilà, ceci aide à expliquer cela. Donc voilà, on pourrait faire un bouquin là-dessus, ça pourrait être sympa. Mais voilà, le problème, c'est que je n'ai jamais écrit de bouquin. Et il faut une méthodologie pour faire ça. Si je le faisais un jour, j'aurais besoin d'aide pour débroussailler tout ça et pour le mettre en forme. Et puis voilà. Mais ce qui serait... Et je le sais d'avance, ça, qui serait hyper frustrant, c'est qu'on ne peut pas tout écrire, on ne peut pas tout mettre, on est obligé d'en garder, parce que de faire des priorités, autrement on fait une Bible, quoi. Et c'est pas, entre guillemets, pas le but, il faut que le bouquin soit lisible et qu'il soit ouvert à tout le monde, donc on est obligé de synthétiser. Et je pense que c'est très 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 difficile de synthétiser là-dedans.
Manu, est-ce qu'on peut dire que l'aventure de la lavande continue ?
Ah ben je pense, oui. Regarde, enfin pour moi en l'occurrence, ça continue. Mais regarde à Mézel et ça continue. La famille Julien, ils ont galéré encore cette année pour remettre la distillerie en route. Ils ont distillé toute la semaine de la foire. Et après, hier, ils distillent encore. Donc, tu vois, on dit mois d'août, mois lavande. C'était ce qu'on disait à l'époque. Bon, les réchauffements climatiques, malheureusement, ça vire sur juillet. Mais il y a encore des endroits où le mois d'août, c'est réellement le mois lavande. À Mézel, c'est encore comme ça, avec les Juliens. Mézel, le Chaffaut. Et ils perpétuent, quoi. C'est de pire en pire, parce que leur distillerie, elle a besoin chaque année de... Eh bien, elle prend elle est de 57, donc elle n'est pas jeune, et elle est fatiguée, elle est à bout de souffle. Donc, c'est rustine sur rustine chaque année, quoi. Alors, eux aussi, ils ont fait une demande par le Géoparc. Le Géoparc, qui est classé à l'UNESCO, pour un financement, pour demander des subventions pour refaire le fourneau de cette distillerie-là, pour refaire son vase distillatoire. Le dossier, d'après ce qu'il m'a dit, le dossier n'a pas été suivi. C'est dommage. Bon, peut-être qu'une autre fois, ils y arriveront, je ne sais pas. Mais parce que là, ça chiffre vite, c'est des montants. On n'est peut-être pas à trois chiffres avant la virgule, mais on ne doit pas y être bien loin. Hein. Donc voilà. Alors, vous allez me dire, ce serait bien de faire les deux en même temps, de faire un musée de la lavande dans la distillerie de Mézel. Pourquoi pas? Bon, il y a un peu d'amiante sur le toit, il y a un peu de vieilles ferrailles, un peu de... Pourquoi pas? Mais il faudrait que l'une soit définitivement arrêtée, que la distillerie soit définitivement arrêtée et que ce bâtiment soit reconverti à musée. Ça pourrait être très sympa, parce qu'il y a de la place pour aménager un parking, pour si... On est en plein sur la route de Digne au plateau de Valensole, aux gorges du Verdon, donc on est en encablure de la route de Nice. Ça pourrait être très, 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 très bien placé. Mais pour l'instant, le travail toujours, la coopérative. On ne va pas souhaiter sa mort. Moi, au contraire, j'aimerais que dans 20 ans, le fume toujours. Parce que c'est une traditionnelle et qu'il n'y en a quasiment plus. Donc, c'est beau à voir. C'est beau à voir.
La lavande, un parfum d'avenir pour vous, Manu?
J'espère bien, oui. J'espère bien. Peut-être pas pour moi, mais bon, au moins pour la génération qui est un peu plus jeune. Vu la traversée qui passe en ce moment là, sur le Lavandin, je sais pas. Bon, j'en ai été un peu conscient parce que j'ai un ami qui est président d'une coopérative lavandicole et il me le dit, hein, ça fait longtemps qu'il me le dit, que ben, il y a surproduction, il y a baisse de rendement, il y a. Le changement climatique donne la possibilité à quasiment planter du lavandin dans la Loire, dans le Val de Loire, et ça monte quoi. Et nous, le problème, c'est qu'ici, il commence à faire trop sec, donc on le souffre. Et le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas adapter, d'après cet ami qui est pas que dans les huiles essentielles, mais dans l'agriculture en général, c'est qu'on ne peut pas, on n'a pas encore de plantes qu'on puisse faire remonter, je dirais, on va dire, du Nord-Afrique jusqu'à chez nous pour les cultiver. Parce qu'on a toujours cette semaine ou ces 15 jours de froid intense qui fait tout geler. Et donc voilà, après tout le reste du temps, ça serait impeccable parce qu'il fait chaud, il pleut pas, ben, ça serait le temps idéal. Mais on a cette semaine, ces 15 jours de moins 8, moins 9, moins 10 qui fait tout geler.